Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 97. Nous sommes quoi? Nous sommes mardi 11 février 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, vous attendiez peut-être à voir Marion. Hélas, Marion ne peut pas présenter le mug ce matin. Elle ne pourra pas présenter le mug cette semaine. Elle a trop de boulot, donc elle s'excuse auprès de vous. Et puis, bah, c'est moi que vous allez supporter aujourd'hui et demain. On retrouvera bien sûr Guillaume jeudi et puis bah, je reviendrai aussi vendredi. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je voulais en profiter pour faire un petit coucou à un de mes neveux qui m'a dit ce week-end qu'il m'écoutait sur la route. Donc écoute Grégoire, si tu m'entends, je te fais des gros bisous. Et regarde bien la route, écoute tonton, mais ne regarde pas tonton. Voilà, c'était un petit message personnel parce que moi j'ai le droit. Voilà, c'est fait, c'est fait. On est mardi, oui, on est bien mardi. Et on va pouvoir commencer tout de suite par les news du jour. Et c'est l'Okawa. Et les news du jour, on va commencer... Décidément, c'est vraiment le coronavirus est partout. Mais on va plus spécifiquement parler du Mobile World Congress. Faut-il annuler le Mobile World Congress? La question se pose de plus en plus, puisque un par un, les grands acteurs du Mobile World Congress se retirent. Il y avait déjà LG, ZTE, et maintenant il y a Ericsson, Sony, Amazon, TCL et Nvidia qui ont décidé de se retirer du Mobile World Congress, le plus grand salon industriel des technologies mobiles, qui doit se tenir normalement le 24 février pour effectivement les causes, c'est le coronavirus. Effectivement, il y a habituellement au Mobile World Congress une forte population chinoise, surtout venant de régions qui sont fortement affectées par le coronavirus. Ça serait effectivement un gros bad buzz pour le Mobile World Congress de devenir un peu la plateforme de lancement du coronavirus en Europe. En tout cas, pour l'instant, les organisateurs maintiennent, en tout cas à l'heure où je vous parle, maintiennent le Mobile World Congress. Effectivement, comme le dit l'article de Numérama, quoi de mieux pour un virus particulièrement contagieux qu'un immense hall où se croiseront pendant 4 jours des individus venus des 4 coins du monde, fatigués par le voyage et l'animation du salon, affaiblis par la climatisation trop forte. Eh oui, hein, ça, les clims de salon, ma voix connaît bien. Pour l'instant, GMA, donc l'organisateur du Mobile World Congress, compte maintenir l'événement. Le 9 février, ils ont annoncé prendre des mesures particulièrement radicales pour empêcher le Mondial World Congress d'être l'épicentre d'une crise sanitaire. On aura notamment tous les visiteurs de la province de Hubei, celle où il y a la ville de Wuhan en Chine, seront refusés. De même, toutes les personnes qui sont allées en Chine devront prouver qu'elle n'y était pas les 14 derniers jours qui précéderont l'événement, ce qui correspond à peu près à la période d'incubation du virus. Et il y aura également un contrôle de la température à l'entrée. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelqu'un avec un thermomètre qui nous le colle dans le fion, mais... les participants devront tous certifier qu'ils n'ont pas été en contact avec quelqu'un d'infecté. Alors ça va être un peu genre déclaration sur l'honneur. Je déclare ne pas avoir été en contact avec quelqu'un d'infecté. Bref, ça, comme ils disent, la dernière mesure est audacieuse vu qu'elle repose sur la bonne foi des personnes et sur leur connaissance parfaite de l'état de santé de leur entourage. Un peu compliqué. Donc c'est vrai que la question est légitime. Moi-même, je me la pose. Je dois me rendre normalement au Mobile World Congress. Je suis invité par Samsung. J'ai envoyé un mail hier soir à Samsung pour savoir s'ils maintenaient leur présence là-bas. Et puis, je déciderai quelque part, en tant que reporter, en petit avec des bretelles, ça m'intéresserait presque d'être dans un salon à moitié vide, parce qu'il y aurait certainement des images intéressantes à faire. C'est pas tous les jours qu'on a un salon à moitié. Après, ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose à voir. Bon, en même temps, j'y allais qu'une journée. Je sais pas. Pour l'instant, je me tâte. Oula, ça débat dans la chatroom sur le nombre de morts. Je crois que ça a dépassé 1000, hein, les morts. Elle ne peut pas cette semaine. Ah oui, Marion ne peut pas présenter le mug ce matin, pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, voilà. Je pense que tout peut changer, hein. On n'est que le 11 et c'est le 24. Mais je ne serais pas surpris qu'il l'annule quand même. Bon, après, moi, le coronavirus. Oui, c'est pas. Enfin. Je suis pas plus inquiet que ça. Bon, après, je suis conscient quand même que ça peut être touchy d'avoir un salon comme ça qui regroupe des gens du monde entier. Après, moi, pour, entre guillemets, ma sécurité personnelle, je suis pas, je psychote pas du tout sur le coronavirus. Bon, puis bon, bah écoutez, hein, si je l'ai, hein, voilà. Hein. c'est pas tellement à ça que je pense, en fait. Après, oui, je suis pas inconscient. Je me dis que ça craint quand même et que. Mais après, voilà, si les mesures sanitaires sont prises. Mais je, ouais, je te, tu sais, moi, je suis de la génération vache folle. Hein. On en a vu déjà des crises comme ça. Enfin, je m'aperçois justement par rapport à des gens plus jeunes que moi, pour qui c'est la première grosse crise sanitaire. Je comprends, hein, leur inquiétude. On a l'impression que c'est... Mais en fait, il y en a déjà eu. Hein. Ça arrive... schématiquement, tous les 5 ans, il y a des crises sanitaires comme ça. Hein. Donc, OK, vache folle. Ça va être le nouveau OK boomer. Ça va être OK, vache folle. Bonjour. Oui, et Marion, ça fait super plaisir de te voir en live. C'est pas Marion, hein, là. Sinon, il y aurait un sérieux problème, là. Bref. Moi, je pense que... Bon, personnellement, je pense qu'il devrait l'annuler. Ça serait mieux parce que le risque de bad buzz est quand même assez important. Et puis quand t'as autant de grandes marques quand même qui se retirent, là il manque plus que effectivement si Samsung décide de pas y aller, je pense que là c'est pas la peine de faire le Mobile World Congress quoi. Voilà. Et encore, c'est les médias qui nous les indiquent. Il y en a peut-être d'autres. Oui, allez, on ne va pas tomber justement dans la psychose et dans les articles aspirateurs à clics coronavirus qui parsèment les news. C'est dur de trouver de la news non coronavirus en ce moment. Facebook, c'est nul. C'est Elon Musk qui vous le dit. Il vous recommande de quitter le réseau social. Effectivement, le bad buzz continue. Encore et encore autour de Facebook. Et là, effectivement, un certain nombre de célébrités commencent à relayer le hashtag Delete Facebook. C'est Sacha Baron Cohen, l'acteur et humoriste, qui s'est illustré en novembre dernier par un discours à charge contre le réseau social lors d'une conférence organisée à New York par l'ONG Anti-Defamation League. L'acteur avait notamment qualifié Facebook d'être la plus grande machine à propagande de l'histoire. Il n'en démord toujours pas. Le 5 février, il avait publié un message sur Twitter qui est très vite devenu viral. Nous ne laissons pas un seul individu contrôler l'eau pour 2,5 milliards de personnes. Nous ne laissons pas un individu contrôler l'électricité pour 2,5 milliards de personnes. Alors pourquoi laissons-nous un homme contrôler l'information vue par 2,5 milliards de personnes ? Et il y avait effectivement sur ce message un montage photo de Mark Zuckerberg déguisé en empereur romain. Eh bien, Elon Musk s'est joint à Sacha Baron Cohen en commentant sa publication quelques jours plus tard avec le hashtag Delete Facebook, simplement parce qu'il pensait que le réseau social est nul. Voilà, c'est l'argument d'Elon Musk. Facebook, c'est nul, donc Delete Facebook. ça a l'avantage d'être assez définitif hein, quand je, comme jugement et pas trop trop compliqué. Facebook, c'est nul. Alors, en fait, la dent d'Elon Musk contre Facebook ne date pas d'hier. Effectivement, en 2018, il avait supprimé les comptes Facebook de Tesla et de SpaceX dans le contexte de l'affaire Cambridge Analytica. Et il avait dit à l'époque, ce n'est pas une prise de position politique, je n'ai pas fait cela parce que quelqu'un m'a défié de le faire, mais je n'aime pas Facebook, ça me donne la chair de poule, désolé, avait-il expliqué. Et c'est sans compter la guerre ouverte entre Musk et Mark Zuckerberg, qui ne s'apprécient pas beaucoup, et c'est le moins qu'on puisse dire, les deux en étaient venus à une prise de bec sur les réseaux sociaux, sur la question des dangers de l'intelligence artificielle, souvenez-vous, en 2017. Et Elon Musk avait notamment qualifié la compréhension du sujet par Zuckerberg de limité. Donc voilà, ils sont pas copains, marquez-lui. Donc, mais bon, c'est vrai que ça s'inscrit un petit peu dans... Bon, après, c'est vrai que Elon Musk, il avait dit aussi qu'il quitterait Twitter, il ne l'a pas fait. Le truc, c'est que delete Facebook, quitter Facebook, il y a un petit côté à la mode aussi. Moi, j'estime que j'ai quasiment quitté Facebook, dans le sens où je l'utilise uniquement pour faire des publications de la chaîne. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'écrivent sur Facebook, j'ai encore découvert des tonnes de mails. C'est pas la peine. Pas la peine de m'écrire sur Facebook, je vous répondrai pas. D'une manière générale, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de m'écrire. C'est pas la peine. Je n'ai absolument pas le temps de faire des réponses individuelles. Je lis quand même vos mails, donc ils me sont quand même utiles et ça me donne des idées de vidéos. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, je reçois minimum 20 mails me demandant quelle caméra acheter, quel light acheter, quel truc acheter. Si je devais répondre même à juste 20 mails par jour de réponses individuelles, ça serait un temps absolument perdu pour la chaîne, pour donner une réponse à une personne. Donc j'espère que vous comprendrez, ce n'est pas du snobisme de ma part, je me la pète pas, je me prends pas pour une star, mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps de répondre à des questions individuelles. Voilà, il y a les camps de fac, exactement comme nous rappelle Karingsu. Bon, pour en revenir effectivement au bad buzz autour de Facebook et le delay de Facebook, c'est quand même un phénomène effectivement qui prend de l'ampleur. Je sais, hein, la chatroom, vous êtes pas mal aussi à avoir quitté Facebook. Bon, moi je garde mon compte, mais c'est plus le compte de la chaîne à la limite qui m'importe, mon compte personnel... Ça relaie parfois mes stories Instagram, mais c'est tout. Après, je vais être cohérent, j'ai pas du tout quitté Instagram, donc quelque part, j'ai pas quitté Facebook, quoi. Ça va donner... On peut pas donner 1000 réponses à une personne. Et oui, la cité de la peur. On continue et on va parler de l'iPhone 9. Et oui, l'iPhone 9, le fameux remplaçant de l'iPhone S2, l'iPhone pas cher. Eh bien, une rumeur confirmée par 3 rumérologues. Non, ça s'appelle pas comme ça. Mais effectivement, selon le site américain Fast Company, mais qui est également relayé par l'analyste Ming-Ching Kuo et Bloomberg, parle d'un iPhone à 399 $ aux États-Unis hors taxes, avant que vous me disiez oh là là, les conversions en euros, on se fait baiser, machin et tout. Chaque année, on est obligé de vous répéter, les tarifs américains sont sans la TVA, les taxes américaines sont différentes d'un État à l'autre, donc on donne toujours les prix en hors taxes aux États-Unis. Alors qu'en Europe, on donne toujours les prix TTC. Donc déjà, rien à voir. Effectivement, on se prend toujours une différence quand même de prix entre les États-Unis et l'Europe, mais c'est beaucoup moins grand que même certains titres de presse, et ça me scandalise chaque année, pour faire du clic, il y a des sites qui vont vous dire oh, l'écart de prix entre le prix américain et le prix européen, mais mon Dieu, machin, tout ça pour générer du clic, alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas la TVA sans le prix américain. Bordel, ça m'énerve. Bon. Aucun n'est de 20%. Oui, bah notre TVA, oui, elle est à 20%. Aux États-Unis, oui, je crois qu'il n'y a aucun État, effectivement, où c'est aussi haut que 20%. Bref, on continue avec l'iPhone 9. hein, avec un potentiel de jeu de mots absolument énorme s'il l'appelle l'iPhone 9, hein. L'iPhone 9 ou la poule, bon, je pars dans les graviers. Bref, ce smartphone devrait reprendre l'aspect de l'iPhone 8, mais en lui intégrant le dernier SoC en date d'Apple, c'est-à-dire l'A13. Effectivement, ça serait un prix quand même assez agressif, hein, de la part d'Apple. Bon, après, toute raison gardée, c'était également le prix de l'iPhone SE lors de son lancement en 2016. Ça correspondrait effectivement à peu près 489 € TTC en France. Ça, c'était le prix de l'iPhone SE. Donc, on aurait globalement quelque chose comme ça en Europe. Donc, c'est un prix assez intéressant. Matt nous demande, et Mario Kart 9, ça sort quand? Ok. L'iPhone 9 à la coque. Oh là là, la chatroom, hein, je vous ai lancé. Hein. On va toutes les faire avant qu'ils sortent. Ah là 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 là. Quel chatroom. On trouvera des iPhone 9 d'occasion. On n'a pas fini. Soit le prix de l'iPhone 1. Merci de nous le rappeler, effectivement, Steve. Comment faire du neuf avec du vieux? Je l'avais déjà faite, celle-là, en France. Je l'avais déjà faite, je crois, dans une de mes vidéos. Il sera de la taille de l'iPhone 8 ou du 5. Ça, c'est un mystère. Je pense qu'on sera plus dans la taille de l'iPhone 8. Hein. Allez, on continue. Je vais laisser la chatroom à ces jeux de mots parce que sinon, on n'a pas fini. Et on va parler effectivement d'une équipe de recherche de l'Université du Nebraska qui a trouvé un dispositif qui permet de générer de l'énergie d'une manière assez intéressante puisque c'est à partir de gouttes d'eau. Ah, comment que ça marche ? C'est un générateur expérimental qui arriverait à allumer sans LED avec une simple goutte d'eau. Donc, c'est assez rentable. En fait, un générateur en oxyde d'indium éteint recouvert d'un revêtement en polytétrafluoréthylène, hein, accompagné d'une électrode en aluminium. Merci l'électrode. Au contact de l'eau, ce système utilise les principes de la triboélectricité, hein, que tout le monde connaît. Je ne vais pas faire un rappel sur les bases de la triboélectricité, hein, qui peut générer une petite quantité d'électricité puis la stocker. Grâce à cette méthode, il est possible avec une seule goutte d'allumer 100 petites LED. Avec 4 gouttes, 1500 diodes peuvent s'illuminer. Le revêtement n'est pas l'unique source de cette efficience. Ce n'est pas simplement au contact de la surface que les gouttes d'eau produisent de l'énergie. C'est lorsqu'elles roulent sur la surface du générateur que le pic énergétique est atteint. Imaginez quand même le potentiel, hein, au-delà des bases de la triboélectricité que nous connaissons tous. Un revêtement sur lequel il y a des gouttes d'eau qui ruissellent, ça vous rappelle pas quelque chose? Bah ouais, votre toit. Et imaginez, moi je suis déjà parti dans des trucs, imaginez des panneaux photovoltaïques pour prendre le soleil, avec en plus un revêtement, je ne sais pas si on pourrait cumuler les deux, mais un truc qui générerait de l'électricité quand il fait beau et quand il pleut. Win-win. Win-win. La tribo, c'est tribal. Alors attendez, il y a un lien vers la tribo électricité. On va aller sur Wikipédia. La triboélectricité, du grec tribéine qui signifie frotter et électron qui signifie ambre, et la racine du mot électricité désigne le phénomène électrostatique créé par la mise en contact de deux matériaux de nature différente. Une partie des électrons, bah c'est comme le ballon sur vos cheveux quoi, hein, désigne une partie des électrons de la surface de contact d'un des deux matériaux est transférée à l'autre et ce transfert subsiste lors de la séparation. L'effet triboélectrique peut être augmenté par rapport à l'énergie mécanique en frottant des matériaux l'un contre l'autre. Et ben voilà, vous coucherez moins con, moi aussi. Voilà, vous pourrez le dire au prochain dîner en ville. À propos, bah, tu sais, les principes bien connus de la triboélectricité. Comment ça, tu ne connais pas la triboélectricité? Bah, excuse-moi, je vais parler avec l'autre personne. Voilà. Hein. Pourquoi je lis dans la chatroom la Bretagne vaincra? Ah oui, oui, la Bretagne, premier générateur d'énergie grâce aux gouttelettes d'eau, effectivement. Donc, bon, après, voilà, c'est pour l'instant, c'est du prototype. Les scientifiques expliquent que pour créer de l'énergie à partir de l'eau, ressource dont nous disposons en grande quantité, nécessite impérativement un fort courant généré par une rivière ou la marée, par exemple. Ce système pourrait s'avérer une piste pour produire de l'électricité à partir de la pluie. Oui, ce qui est précis, c'est qu'avant, pour générer de l'électricité avec de l'eau, il fallait un fort courant. Là, ils y arrivent avec le ruissellement, en fait, de gouttelettes d'eau. On peut imaginer des choses même à partir de la condensation. En fait, on ne serait même pas obligé d'avoir de la pluie pour générer de l'électricité. De la condensation qui produirait des gouttelettes d'eau qui ruissellent, ce qui permettrait presque de faire marcher ça en toute saison, quoi. Donc, c'est assez intéressant. La Bretagne va enfin arrêter de se faire couper l'électricité en hiver. Ce serait pas l'annonce d'un labo du MIT qui cherche des financements? Non, ce n'est pas le MIT, c'est l'université du Nebraska à Lincoln. Donc pas mauvais angle. Après, ils cherchent peut-être une subvention. Mais ils ont publié leur découverte dans le très sérieux journal scientifique Nature. Pour ceux qui connaissent. Généralement, quand on publie dans Nature, après, il y a des conneries qui ont été publiées dans Nature, mais Nature, c'est le truc officiel des scientifiques magazines quand tu publies une recherche, quoi. Nouvelle technique de drague, viens, on va faire de la triboélectricité. Pas mal, intéressant. On se tribofrotte. On se tribote. N'importe quoi. On peut utiliser la sueur et l'urine aussi pour d'autres applications. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hein, recharger ton portable en allant pisser. Hein, mais il faut pas le faire tomber dans la cuvette. Hein, c'est le seul petit problème. Bref, on parle toujours de technologies qui vont nous détruire, qui nous effraient. Et ben, si on arrive à générer de l'électricité pour une maison avec des gouttelettes d'eau, moi je dis vive la technologie aussi pour ça. Parlons un petit peu de Free. Ça va être une grosse année pour Free. Ils se sont un peu plantés les dents dans la moquette. Et c'est peu de le dire, en 2019, le lancement de la Freebox Delta a été mal reçu. Ça n'a pas été un franc succès. Ça a été mal compris. Et pour se relancer, d'ailleurs, l'opérateur a dû vendre ses pylônes pour 2 milliards d'euros. Et Xavier Niel est parvenu ainsi à doper le cours de l'action Iliad. Mais effectivement, la sortie de crise, c'est 2020, et Free va avoir pas mal de choses à annoncer en 2020, et notamment une nouvelle Freebox V8, nom de code de la prochaine Freebox, après la Freebox V7 Delta. Ils annoncent qu'il y aura une annonce dans les semaines qui viennent, donc la Freebox V8 va arriver. On n'en sait pas tellement plus, si ce n'est que ça sera pas une Freebox Delta. Ça sera probablement une offre beaucoup plus abordable, avec probablement une box qui sera moins dans les extrêmes Hi-Fi. Il y aura peut-être pas des enceintes de fou, etc. Mais probablement une offre beaucoup plus compétitive, beaucoup plus raisonnable et surtout beaucoup plus simple pour les gens qui ne veulent qu'une box Internet. C'est vrai que la Freebox Delta offrait finalement beaucoup trop d'options redondantes avec des équipements probablement que certaines personnes ont. Donc, comme nous le dit la chatroom, ils nous le présenteront dans une présentation, hein, pour continuer. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai aussi que Free donne des précisions sur leur équipement 5G. Free indique avoir choisi Nokia pour son réseau mobile 5G, mais souhaite conserver la flexibilité de travailler avec l'ensemble des équipementiers. Autrement dit, l'opérateur ne ferme pas la porte à une collaboration avec Huawei. Free aimerait surtout une clarification avec les mêmes règles pour chacun des quatre opérateurs, et il regrette, et ça c'est vrai, une certaine opacité La position des autorités publiques françaises n'est pas claire pour l'instant sur Huawei, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et dernièrement, Free exprime son intérêt pour une offre Free Pro. Jusqu'ici, c'est vrai, quand vous aviez une PME, une petite entreprise, si vous vouliez prendre une offre Free, bah, c'était la même offre finalement que les particuliers. Et ils ont annoncé le lancement d'une offre promo pour 2020 qui devrait créer un choc d'innovation, d'usage et de simplicité. Le but sera d'amener un accès à la fibre aux PME et TPE. Moins de la moitié des PME françaises sont connectées à la fibre. Scandale. Merci beaucoup, Mister Démontargis, pour ton super chat. Enfin, ton super sticker. Merci, merci. La news de Bill Gates... La news de Bill Gates et du yacht a été démentie. Merci Vincent de préciser ça. Je regarderai effectivement, on en parlait hier, mais il y a peut-être effectivement eu un démenti. On continue dans les news et c'est même la dernière news. Waouh, ce matin, on avance bien dans les news, c'est bien. On va parler du nouveau codec de Netflix qui va réduire votre consommation de data sur Android pour l'instant. Et effectivement, Netflix a annoncé qu'il commençait à diffuser avec le codec vidéo AV1 en streaming sur son application Android. Le dispositif est censé à terme remplacer le codec le plus répandu actuellement, le fameux VP9. Effectivement, la norme actuelle, c'est le VP9. C'est un codec vidéo qui a été développé par Google en 2013. Pour lui succéder, les grandes entreprises de la tech américaine, Amazon, Google, Intel, Microsoft, Netflix, se sont alliées dans l'Alliance for Open Media. Et le but, c'est de créer un format vidéo performant, libre de droit, en s'engageant à ne pas se mener une guerre commerciale. La démarche a séduit plusieurs entreprises, et dans celles qui ont rejoint l'alliance, il y a Videolan, VLC donc, Samsung, Tencent, Facebook et Apple. En mars 2018, les travaux de l'alliance ont entraîné la sortie de l'AV1, le codec compresse une vidéo 20% plus efficacement que le VP9, donc plus économe en données mobiles. C'est le principal atout et il espère remplacer et concurrencer l'autre codec qui est le fameux H265/HEVC. L'utilisation du dispositif est amenée à s'étendre. Alors, c'est intéressant parce que ça consomme moins de données mobiles, mais attention. Et ça, nous, dans la vidéo, on connaît bien et on n'est pas surpris. Il y a toujours, toujours, quand quelque chose fait quelque chose de mieux, il y a toujours quelque chose qui fait moins bien. Généralement, c'est toujours donnant-donnant dans le monde des codecs. Le truc, c'est que en compression vidéo, plus vous compressez, plus vous avez besoin de puissance. Nous, on le voit bien sur nos ordinateurs. Pour faire très schématiquement en montage vidéo, plus votre fichier est lourd, moins il est compressé, plus facile il est à travailler pour l'ordinateur. Contrairement à ce que les gens pourraient croire, en pensant que les gros fichiers lourds, il faut des gros ordinateurs, c'est tout le contraire. Enfin, c'est à peu près tout le contraire. Un gros fichier, par exemple le ProRes ou des choses comme ça, sont des fichiers beaucoup moins compressés que des petits fichiers vidéo qu'on a sur nos smartphones, etc. Et les petits fichiers très compressés, ça demande énormément de puissance au processeur, donc d'énergie à décompresser en temps réel. Donc vous doutez bien que sur un mobile, vous allez peut-être gagner de la donnée, ça va consommer moins de données sur votre forfait, mais par contre, ça risque de plus bouffer votre batterie. Donc ça sera un choix à faire en attendant probablement que le codec soit amélioré, un AV2 ou un AV1.1, parce qu'ils optimiseront probablement également le besoin de puissance, sans compter que nos smartphones, a priori, vont avoir des processeurs de plus en plus puissants. Mais bon, voilà. Non, Marion ne peut pas être là cette semaine. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi Marion n'est pas là aujourd'hui, elle ne sera pas là demain non plus, ça sera également moi. Marion a trop de travail cette semaine. Il faudra sûrement des ordinateurs bien plus puissants, et idem pour les téléphones.
Oui,
après, ça marche quand même. Alors, c'est vrai que, justement, pour en revenir à la V1 qui sera sur Netflix, il est également, à savoir, hein, la V1 est également disponible sur YouTube où il est possible de l'activer. Mais vous avez un investissement sur la puissance consommée, effectivement. Et pour la V1 sur Netflix, ça ne fonctionnera pas avec tous les smartphones Android. Et a priori, ça sera une option à cocher, hein, dans Netflix. Ce n'est pour l'instant que sur les smartphones Android avant d'être déployé sur le reste des plateformes Netflix. Donc, si vous voulez essayer un petit peu ça. Alors, le H265, c'est très bien, mais pas forcément pour de la SVOD. C'est là où il faut comprendre qu'il n'y a pas un codec qui va tout faire et qui sera le bon pour les caméras, pour le montage vidéo, pour la diffusion. Il y a probablement des codecs concurrents qui vont être plus spécialisés. Voilà, comme nous le précise Jimmy Lafleur, le codec RAW très lourd, très lourd à débailleuriser, effectivement. Le codec type ProRes très lourd, mais très simple à décompresser. Le codec type H264 très léger, mais très compliqué à décompresser. Effectivement, tu as résumé un petit peu les choses. Et effectivement, le problème de l'H265, il y a une licence, alors que la V1, non, puisqu'il est open source. Ça aussi, c'est important dans les choix des codecs. Voilà pour les news du jour. On va parler un petit peu de notre sponsor. Notre sponsor, c'est le Shadow PC. Le Shadow PC, c'est un PC complet à puissance gamer disponible sur le cloud. Effectivement, alors, il y a 3 offres Shadow PC, sachant qu'il va y avoir du ralentissement dans le déploiement de l'offre Ultra et de l'offre Infinite. Donc, pour les nouveaux arrivants, si vous souhaitez prendre un Shadow, ne seront a priori disponibles, et quand même avec un certain délai, que l'offre Boost. Donc, je vous conseille d'aller voir sur le site Netflix, sur le site Shadow, de quoi il en retourne, quelles sont les différentes puissances proposées. N'oubliez pas d'utiliser le code Naotech 2020 ou 2020, si vous voulez avoir une petite réduction, si vous vous abonnez. Et nous, en tout cas, on remercie Shadow, puisqu'ils nous permettent de vous faire gagner un mois de Shadow gratuit toutes les semaines. Le tirage au sort, c'est le vendredi. Et si vous voulez jouer pour pouvoir gagner ce mois de Shadow PC, il vous suffit de faire un tweet en suivant déjà le Twitter de Shadow France, donc Shadow _ France, de nous faire un petit tweet en nous expliquant pourquoi vous avez envie de tester le Shadow PC, pour quel jeu, pour quelle application. Très important, n'oubliez pas de mettre dans votre tweet le hashtag le mug Naotech et le hashtag Shadow PC. Comme ça, moi, je vous vois le vendredi quand je fais le tirage au sort sur Twitter. Si vous ne mettez pas ces hashtags, eh ben, je ne vous vois pas. Et je ne pourrais pas vous faire gagner. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut le faire. Voilà. Je ne comprends pas pour le Shadow. Si on se crée un compte, on pourra seulement se connecter en avril. Oui, aujourd'hui, ils sont un peu débordés par leur succès. Donc, les précos et les commandes, l'ouverture des Shadows se fera beaucoup plus tard. Le 19 février, il y aura plein d'annonces là sur ce qui va se passer pour Shadow, notamment pour ceux qui ont précommandé l'Ultra et l'Infinite. Je le rappelle, hein, parce que c'est une chose que nous a bien précisé le lead dev qui était là vendredi. Ceux qui ont déjà précommandé l'Ultra et l'Infinite, il n'y aura pas à attendre 2021 pour l'avoir. Ça, c'est 2021, c'est pour ceux qui prendraient un Ultra et un Infinite aujourd'hui. Shadow joue la prudence et leur dit « vous ne l'aurez pas avant 2021 ». Mais ceux qui ont déjà préco l'Ultra et l'Infinite, vous devriez les avoir au courant de l'année. Tu recommandes lâcher H275 ? Tu ne pourras pas, pour l'instant, François, le lâcher complètement. Mais l'avenir, on verra. Mais pour l'instant, par exemple, je n'ai pas du tout entendu parler de la V1 dans le monde du montage vidéo et de l'enregistrement sur caméra. Hein. « Donc voilà, attendez le 19 février avant de partir sur des fantasmes ou du bad buzz autour de... Enfin bon, après, oui, ils ont quand même eu là des problèmes et il faut en parler. Mais tant qu'on n'aura pas les annonces du 19 février, on ne saura pas à quoi s'en tenir. Je vous propose qu'on passe à la tartine. On va parler, vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, mais de cette mère qui a retrouvé sa fille qui est morte à travers la réalité virtuelle. On va justement débattre, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est complètement creepy, est-ce que c'est même dangereux, et on va en parler tout de suite, et c'est dans la tartine. Alors, effectivement, vous avez peut-être vu hier, et on va en parler aujourd'hui, d'une... Alors, déjà, pour remettre dans le contexte, c'est un documentaire réalisé par MBC qui a été diffusé le 6 février sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on voyait dans ce documentaire? Yang Yi-sung, qui est une Coréenne, en 2016, a perdu sa petite fille, Nayeon, âgée de 7 ans, à cause d'une maladie incurable. Les techniciens, pour faire ce documentaire, ont restitué le visage de la petite fille, enregistré les mouvements d'une jeune fille du même âge pour les transplanter dans un monde virtuel. Ils ont même synthétisé le parc que l'enfant et la famille avaient l'habitude de fréquenter. Et vous avez peut-être vu les images ou vous avez même peut-être vu le documentaire. On voyait que sa mère enfilait un casque de réalité augmentée, des gants haptiques pour l'expérience. Les gants haptiques permettent de retrouver une sensation de toucher dans le monde virtuel. Et le documentaire suit effectivement les retrouvailles entre la mère et sa fille. Où effectivement la séquence commence avec la petite fille qui court vers sa mère et après quelques mots elle lui demande « Maman, est-ce que tu penses à moi ?» et sa mère qui lui répond simplement tout le temps. La petite lui demande de lui tenir la main, ce que la mère peut faire grâce à ses gants haptiques. À ce moment-là, elle ne peut s'empêcher de retenir ses larmes. À la fin de la session virtuelle, Nayeon s'endort avec sa maman à ses côtés avant de se transformer en papillon et de s'en aller. Alors, au-delà du côté sensationnaliste pour une expérience pour la télévision, bonjour le côté scientifique des choses, on peut se poser des questions. Moi, j'avoue que j'ai été un petit peu dérangé. Je vous donne déjà mon opinion à moi. Ça m'a fait poser des questions. Le deuil est un processus psychologique complexe qui a plusieurs étapes. Est-ce que le fait de pouvoir ramener une personne morte dans le cadre, et notamment dans la perte d'un enfant, on est dans des registres émotionnels extrêmement forts. Est-ce que c'est bien prudent, sans encadrement thérapeutique, quelles seront les conséquences dans le processus du deuil pour la mère qui a perdu sa fille en 2016, il n'y a pas très longtemps. Et le processus de deuil dans la perte d'un enfant, ça peut prendre des années et des années. On passe globalement une partie de sa vie à faire des processus de deuil. Est-ce que cette technologie qui nous permettrait de scanner et de rappeler des personnes disparues pour continuer à avoir des interactions avec elles est une bonne chose? Est-ce que c'est un progrès pour la civilisation? J'en sais rien. C'est difficile à dire. Il faudrait que des psychologues, des psychiatres surtout, se penchent sur la problématique. Peut-être que dans certains cas, ça peut être thérapeutique. Dans le cas d'un de deuil qui passe pas. Mais en fait, ça pose un problème même plus vaste. Notre capacité à pouvoir reproduire des rêves et interagir avec ces rêves, c'est à la fois un rêve et un cauchemar. Les rêves sont un processus qu'on comprend mal encore de nos jours. Il y a encore beaucoup de chercheurs qui travaillent pourquoi on rêve, à quoi ça sert les rêves. Certains disent c'est des purges du cerveau. Toutes nos frustrations, on les élimine dans des rêves. D'autres ont d'autres théories, mais imaginons justement qu'on parte, c'est plutôt les théories lacaniennes, sur le rêve est une... est un peu une, je schématise, mais un peu une purge du trop-plein de notre psyché, et qui nous permet d'évacuer des frustrations qu'on accumule à longueur de journée. Si justement on reproduit ces rêves, on se reconfronte finalement à nos frustrations, est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom? Est-ce que vous avez vu déjà cette vidéo? Est-ce que vous trouvez ça dangereux? Est-ce que vous trouvez ça au contraire vachement bien? Enfant ou pas, j'ai perdu mon père et ma mère. J'ai perdu mon père. Et pour mon petit équilibre mental, je ne me vois pas vivre une expérience comme celle-ci. Ça peut être perturbant. Effectivement. Tu parles de psychanalyse, donc tu sais que c'est faux. Oula, Vaya, cette fois, on ne va pas partir dans des débats médicaux là ce matin, parce qu'on en fait trop. Désolé, hein, mais à chaque mug, on a des débats médicaux. Oh là là, c'est parti pour les pseudosciences. Bon, je voulais savoir vos débats. C'est un outil comme les photos ou la vidéo, c'est étrange pour les autres, mais pour l'endeuillé, ça peut aider. C'est pas mal vu, effectivement, Aura France. Effectivement, on a déjà des photos et des vidéos hein, pour se rappeler des personnes endeuillées. Quelle véritable différence? La différence va peut-être être effectivement l'interaction et finalement interagir avec ce qui ne sera qu'une intelligence artificielle. On l'a vu, il y a un épisode de Dark Mirror hein, qui fait exactement ça. Moi, je dis pas que j'ai trouvé ça choquant, horrible. Bon, le côté larmoyant d'avoir pris exprès, mais bon, c'est une télé. J'étais un peu mal à l'aise, voilà. Le deuil, c'est accepter que la personne est partie. Donc, c'est forcément compliqué. Oui, c'est ça peut-être la différence avec une photo, une vidéo. Le fait de pouvoir interagir avec cette personne, moi, ça me rappelle, effectivement, en parlant de pseudosciences, la mode du spiritisme au début du siècle, où, effectivement, dès que quelqu'un vous promet de rentrer en contact avec les morts, pour une personne, et parlons d'une personne célèbre, Victor Hugo, qui a très très mal vécu la perte de sa fille, il est allé à fond dans ces trucs-là pour pouvoir parler avec sa fille. Donc voilà, une personne qui a déjà du mal à vivre un deuil, est-ce que c'est pas... Et la mère, elle a dit quoi? C'est quoi son avis à elle? Moi, j'ai pas regardé l'ensemble du... En fait, j'ai vu qu'un résumé hein, du truc. Elle a dit que c'était une expérience positive pour elle, que ça a été joyeux, même si elle a beaucoup pleuré. Donc, elle a l'air d'avoir apprécié. Pourtant, le truc n'était pas techniquement, hein, c'était pas non plus... c'était pas Hollywood, hein, ça laguait un petit peu, mais ça, elle dit que ça a été positif pour elle. Est-ce que ça ne gêne pas le deuil? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense, de toute façon, tout le monde a des processus de deuil différents. Ça, c'est une chose que m'a bien montré la vie. Personne ne gère le deuil de la même façon. C'est quelque chose de très intime et de très personnel, la gestion du deuil. Alors, on dit qu'il y a des étapes dans le deuil, mais ça dépend complètement des gens et des manières de vivre les choses. Donc, je pense que pour certaines personnes, ça peut être bénéfique. C'est un peu comme quand on vous demande est-ce que tu veux voir une dernière fois une personne qui est décédée, de voir une personne dans le cercueil. Certaines personnes... Elles veulent surtout pas, et il faut pas les juger pour ça, et d'autres veulent voir, et il faut pas les juger pour ça, parce que il y a certaines personnes que ça aide, d'autres au contraire que ça n'aide pas de voir la personne décédée. Donc là-dessus, on est tous différents. Je dirais qu'une technologie comme ça, oui, mais peut-être dans un cadre médical encadré. Et moi, je ne pense pas que la psychanalyse soit une pseudo-science. Désolé, hein, c'est mon avis à moi. Je pense que avec des spécialistes, effectivement, qui pourraient encadrer et accompagner, et qui estimeraient que dans un but thérapeutique, ce genre d'interaction pourrait aider. Pourquoi pas? Ma mère n'a pas pu aller à l'enterrement de son père, ça m'a choqué à l'époque. Et je me suis dit, elle avait 14 ans, elle fait ce qu'elle veut. Oui, je crois que vraiment, enfin, pour revenir à des choses plus... Il y a des gens qui pleurent aux enterrements, d'autres qui pleurent pas. On ne mesure pas la souffrance au nombre de larmes. Il y a des douleurs qui sont intérieures et qui ne se voient pas. Et justement, une personne qui a du mal parfois à extérioriser ses douleurs, ça peut être un problème. Et on n'a pas à juger. Vous savez, c'est comme quand vous avez une discussion, les discussions surréalistes où vous dites à quelqu'un « je viens de perdre quelqu'un » et la personne vous dit « ah ben moi, je viens d'en perdre deux ». L'espèce de surenchère. Tout ça, c'est des processus personnels. Les douleurs ne se comparent pas entre elles. De dire à quelqu'un « non mais arrête, il y a des gens qui crèvent dans le monde, donc toi t'as juste perdu ton père », c'est quand même... C'est débile, ça m'énerve à chaque fois, les douleurs ne se comparent pas, il n'y a pas une échelle des douleurs les plus... et ça n'aide absolument personne que d'essayer de dire « oh, il y a toujours plus malheureux que toi, mon gars ». Ça, c'est des phrases, putain, c'est l'éducation du siècle dernier, quoi. Bref. Oui, oui, bah c'est ça. Moi, j'ai perdu mon oncle. Ah, bah moi, j'ai perdu mon père. Donc, c'est pire, tais-toi, quoi. Oui, c'est un peu ça, la compète des souffrances. Mais c'est très judéo-cato, hein, ça. Hein. La perte d'un animal. Alors, je suis partagé là-dessus. Parce que la perte d'un animal, et pour l'avoir vécu, hein, quand j'ai perdu mon chat il y a quelques années, c'est dur. C'est très dur. Moi, c'était mon premier animal domestique en plus. Donc, je l'ai mal vécu et j'y pense encore avec tristesse, je vais le dire. Après, voilà, c'est un animal. Là aussi, c'est pas comparable. Je pense que de comparer l'amour qu'on a pour les animaux et de comparer l'amour qu'on peut avoir pour les êtres humains, c'est stupide de le comparer. C'est très différent. C'est très relatif. Je ne jugerai jamais une personne qui est triste parce qu'elle a perdu un animal de compagnie. Et je supporte pas les gens qui disent « ouais, mais enfin quand même, c'est pas la perte d'un être humain ». C'est très différent. C'est pas la même chose. Non, non, il n'y a pas de sujet suivant, Hugues. On est en plein débat. C'est la tartine. Et je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant parce que, effectivement, ces technologies et le rapport qu'on pourrait avoir avec nos morts pourraient être changés technologiquement. On le sait déjà, la présence virtuelle des morts sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, on en reparle régulièrement, des mesures qui sont prises actuellement pour les personnes décédées sur les réseaux sociaux, c'est des choses... Relisez Ravage hein, de Barjavel, ou la grande mode dans l'univers de Barjavel du futur, c'est de conserver ses morts dans les murs de son appart avec des systèmes, je crois que c'est de la congélation, de la cryogénisation, ou un truc comme ça. Et justement, dans Ravage, désolé, je le spoil pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est marrant, ça fait deux fois que je parle de Barjavel cette semaine. Signe des temps. Où on perd toute l'électricité, en fait, dans Ravage. Et justement, les murs fondent et on se retrouve avec nos cadavres. Ce que je veux juste dire, c'est que le rapport de civilisation qu'on a avec notre mort définit vachement les civilisations. On n'a pas toujours eu le même rapport avec la mort. Ça a beaucoup changé selon nos civilisations. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies d'une présence virtuelle, en plus avec de l'intelligence artificielle qui pourrait être un mimique d'une personne déjà existante, qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant. Au Mexique, oui, on fête ses morts. Effectivement, on fait la fête des morts et la fête mexicaine. Je n'aimerais pas participer à une pareille expérience, c'est trop troublant. Et de toute façon, on ne sait pas ce que la personne est décédée. Je préfère les photos et les vidéos qui représentent vraiment la personne aimée. Oui, Michalina, je suis d'accord avec toi. Après, c'est peut-être une question aussi de génération, hein, soyons... ça nous choque peut-être parce que c'est quelque chose qui nous trouble. Ça sera peut-être quelque chose de beaucoup plus habituel pour les générations à venir. Est-ce que ça va les détraquer plus que nous ? Je ne me permettrai pas de le dire. C'est un outil pour quelqu'un d'équilibré. Il comprend que c'est un outil, sinon cela va aggraver la situation car la personne fragilisée verra pas comme un outil. Moi, je pense que vraiment, ça va... On pourrait prendre aussi la question sous un autre angle. Je vous ai pas fait l'article, mais néanmoins, c'est très intéressant. En ce moment, il y a un truc qui cartonne. C'est effectivement de pouvoir reproduire ses ex-amants, en réalité virtuelle. Mais on imagine bien les dérives que ça peut avoir. Parce que de pouvoir reproduire ses ex en réalité virtuelle et interagir avec ses ex, pour ceux d'entre vous, et j'en fais partie, qui ont eu des processus de deuil douloureux de relations amoureuses, puisqu'une relation amoureuse, il y a aussi un processus de deuil hein, en cas de rupture, et c'est parfois douloureux, et ça prend parfois des années et des années. Je remercie le ciel de ne pas avoir des tentations ou la possibilité technologique de reproduire mes ex en réalité virtuelle, parce que je pense que ça m'aurait bien vrillé la tête, et ça m'aurait pas du tout aidé dans les processus de deuil. Donc voilà, c'est effectivement, il faut le savoir, hein, c'est un vrai phénomène en ce moment. Alors, c'est pas énorme, mais c'est un phénomène qui prend de l'importance. Des gens qui font reproduire leurs ex en réalité virtuelle pour rentrer en interaction avec. Et bon, je pense que ceux de la chatroom qui ont déjà vécu des processus de deuil douloureux de relations amoureuses savent à quel point le désir de retrouver la personne aimée qui s'est séparée de nous est tellement fort que ça nous fait faire des conneries. Hein, le moins grave étant l'appel bourré à 5h du matin à son ex 5 ans, ça sent le vécu. Voilà, c'est des processus de deuil qui sont difficiles. Oui, sans parler effectivement des gens qui le vivent mal et d'une manière agressive et qui pourraient se défouler effectivement sur un... Et bon, on sait que des esprits fragiles, ça les chamboulerait encore plus, quoi. Je crois qu'il y a des traitements pour enlever le souvenir. Alors ça, tu as peut-être vu un film. Il y avait un film, je me souviens. Comment il s'appelle? Où tu pouvais te faire ôter des souvenirs trop douloureux. Mais ce n'était pas un documentaire, hein, c'était un film. Donc ça n'existe pas, un traitement qui permet d'enlever des souvenirs douloureux. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Total Recall. C'est pas Total Recall. Ah bah oui, Eternal... Pff, je suis bête. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un de mes films... de mes 10 films préférés au monde. Bah oui, bien sûr, c'est dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que si vous n'avez pas vu, il faut absolument voir. C'est super glauque ce matin. Bah en même temps, c'est des sujets intéressants. On n'a pas que des sujets joyeux, hein. On va pas parler que de coronavirus ou de... C'est vrai que les sujets joyeux... Oui, oui, c'est Michel Gondry. C'est un film magnifique, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour moi, c'est le film qui parle le mieux de l'amour que j'ai jamais vu. C'est mon film d'amour préféré parce qu'il parle... En tout cas, moi, il rentre en résonance avec ce que je pense de l'amour, en fait. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Oui, il y a certains épisodes de Black Mirror. Allez, je vous propose qu'on passe au camp de fac, mais c'est un sujet intéressant. Ça m'a beaucoup intéressé de le partager avec vous. On en reparlera probablement. Et on va passer au camp de fac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Et c'est maintenant tout de suite. Alors, on me dit que la technologie pour enlever des souvenirs existe, mais tu perds par contre plus... Oui, peut-être qu'une lobotomie, ça doit t'enlever des souvenirs. Je suis pas spécialiste du sujet, puis c'était peut-être pas vraiment, finalement, le truc le plus important. Mais Mais d'ailleurs, Eternal Sunshine of the Spotless Mind pose bien la question si on avait la technologie pour enlever des souvenirs ou oublier la personne aimée quand c'est douloureux, est-ce que ça serait une bonne chose? La douleur fait partie de la vie. Moi, j'estime que ne pas avoir connu des souffrances amoureuses ne te permettront jamais de comprendre certains poètes, certaines chansons, certains bouquins. Souffrir permet de comprendre l'art aussi, pour moi. Et la souffrance, on doit pas chercher à l'éliminer à tout prix. On doit apprendre à vivre avec. Mais bon, c'est ma théorie de la vie. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions aujourd'hui? Oui, c'est le film avec Jim Carrey, hein, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vendredi, c'est la 100e mug. Est-ce que ça va être une édition très spéciale? Oh, non, j'ai rien préparé du tout. J'y ai pas pensé. Non, il y aura rien de spécial. On avait fait un 100e Techscope. Non, il y aura. Non, franchement, j'ai rien prévu. Et je vous le dis vraiment dans les yeux, j'ai rien prévu et je vais rien avoir le temps de prévoir, quoi. Dans l'acceptation du deuil d'une relation est un passage important dans la vie, je pense aussi, oui. On viendra tous avec un gâteau. Et ben voilà, vous ferez des gâteaux et on fêtera ça dans la chatroom. Un shadow de plus pour la 100e. Arnaud, toujours à grappiller, hein. Le mec de la Saint-Valentin, non, je n'ai pas commandé de mug, me foutez pas la pression, j'ai trop de choses auxquelles je dois penser en ce moment, donc franchement, la 100e du mug, il y a le propanol testé sur les survivants des attentats de Paris, oula, oui, d'accord, c'est pas super glauque, c'est juste réfléchir, qui on est, merci Jérôme, en plus de tête marrée, un bout à l'autre, bonne journée. Bah, bonne journée à toi François. On attend encore le Techscope 1000, bah, tu peux attendre longtemps Vincent. Non mais, putain, vous allez être doublement déçus. Quand je vous dis qu'il n'y aura rien vendredi, il n'y aura vraiment rien vendredi. Je n'ai même pas percuté que la 100e, c'était vendredi. Je vous jure, juré, si je mange, je vais en enfer, je sais pas quoi. Je n'ai rien prévu pour le mug 100. Donc, arrêtez de... Parce que sinon, vous allez faire comme ce moment pathétique dans les films où le mec croit qu'il va y avoir un anniversaire surprise. Donc, il est là. Ouais, non, mais je sais qu'il n'y a pas d'anniversaire. Et puis, en fait, il n'y a vraiment pas d'anniversaire surprise. Donc, on a vraiment mal pour lui. Et j'ai pas envie d'avoir mal pour vous. Le mug avec toute l'équipe, c'est sûr. Ouais, je vais faire monter Guillaume vendredi alors que c'était pas prévu. Marion, alors déjà qu'elle a pas le temps cette semaine, elle aura vraiment pas le temps vendredi. En plus, elle est en formation, hein, donc non, ça sera absolument pas possible. Au pire, Albert le présente en roulé. Bah, pareil, Albert, je vois plus trop en ce moment. Il est blindé de boulot, quoi. Voilà, on fêtera la 1000e du mug. Invite Pépé Garcia s'il est là. Pff, il doit être à l'autre bout du monde. Puis ça se fait pas d'inviter les gens deux jours avant. Hein. Et on a tous des agendas. Moi, je trouve ça très impoli. Je le dis parce que j'ai été invité à une émission genre deux jours avant. Bon, le fait est, c'est que je suis pas libre ce jour-là. Je trouvais ça un peu limite parce que ça fait un peu l'invitation en catastrophe, quoi. Shadow PC disponible uniquement en France? Non, également en Belgique, en Suisse. Quels sont les autres pays? États-Unis, ça commence. Allemagne? Angleterre, je crois qu'il y a le Shadow PC. Vous ne parlez jamais de votre partenariat Nikon ou je me trompe? En fait, on en parle. On va bientôt. Dans les mois à venir, il y aura une deuxième vidéo sur Nikon. En fait, notre partenariat avec Nikon, c'est un partenariat long, sur un an. Vous l'avez peut-être vu dans nos vidéos habituelles, il y a souvent un marquage. Pour vous montrer, c'est un marquage discret, mais ça vous montre quand même certaines images qui sont faites au Nikon. Parce que nous, on trouve que c'est une bonne idée pour vous faire une avis, c'est de finalement voir les images qu'on fait avec. On va effectivement faire une vidéo mi-course, enfin un peu plus de mi-course, pour vous parler un peu de notre expérience avec les Z6 pendant l'année. Mais sinon, non, on vous rabâche pas les oreilles. Et je pense que c'est bien. C'est pas le même type de partenariat qu'on a, par exemple, avec Shadow sur le mug, spécifiquement tous les matins. Oui, ça fait un peu mon vrai invité, c'est désister, tout à fait. As-tu déjà utilisé du fond vert en vidéo? Je pense que tu voulais dire, parce qu'en photo, ça sert à rien, le fond vert. Oui, mais tout début sur le web, nos premières vidéos avec Christophe, on avait fait certaines vidéos sur fond vert qui étaient assez catastrophiques. Et j'ai compris que c'était une technologie beaucoup plus compliquée qu'on ne le croyait. Il ne suffisait pas de tirer juste un drap vert derrière soi si on veut le faire bien. Tu connais une souris pas chère qui marche sur du verre? Bah, toutes les dernières Logitech marchent sur du verre. Hein. Notamment, effectivement, dans la gamme MX, il y a peut-être des MX Lite ou il y a des MX de voyage qui ont, je crois, la technologie pour fonctionner sur du verre. Un test du nouveau Z6. Bon, il n'est pas nouveau, il a plus d'un an, le Z6. Ça ne sera pas exactement un test. Parce que, qu'on soit clair sur une chose, je vais le redire sur la chaîne, parce qu'il y a des gens qui se trompent, je ne me ferai jamais payer pour un test. Parce que ça, ce ne serait pas loyal en vous. Alors, il y a des trucs qui ressembleront peut-être à des tests, mais qui seront des vidéos soit avec du placement, soit sponsorisées. Mais je ne me ferai jamais payer directement par la marque. Attention, hein. Un test d'iPhone avec un placement de RhinoShield, c'est un placement produit qui n'est pas le produit qu'on teste. Ça, je n'accepterai pas. C'est pour ça que je vous précise, quand une vidéo est sponsor, comme Revolut, je ne suis pas là pour tester Revolut. Je suis là pour vous parler de Revolut, mais je suis payé pour en parler. Ils me demandent pas, ils m'ont jamais écrit hein, dans le brief Revolut, t'es obligé de nous parler de nous en bien. Mais bien évidemment, c'est un public rédactionnel. Donc, je vais parler de mon expérience positive du truc. Moi, je les préviens toujours que je parle aussi quand même de mes expériences négatives et des défauts du produit, parce que je pense que sinon, c'est pas intéressant. Et la plupart des marques sont d'accord avec ça. Hein. Mais un test, vraiment, me faire payer. Par exemple, j'ai toujours refusé qu'un constructeur de smartphone, et j'ai été contacté par des constructeurs de smartphone, qui voulaient payer pour que je fasse le test sur la chaîne. Non, 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 ça c'est hors de question. C'est quoi les avantages en ce moment du code Naotech pour Shadow? T'as 5 euros sur une offre Boost, 10 euros sur une offre Ultra et 15 euros sur une offre Infinite avec le code Naotech 2020. Faire une vidéo récap des live mugs. Félix, est-ce que tu imagines, je sais pas si t'as déjà touché un logiciel de montage, est-ce que tu imagines le temps qu'il faudrait pour faire un best-of des mugs? C'est en dérush, ça serait un cauchemar absolu. Donc, vous attendez pas à voir ce genre de truc. Ça nous prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps. Oui, oui. Alors, pour revenir sur le Z6, on va en parler. On va vous parler de notre expérience. On va vous parler de ce qu'on a aimé, moins aimé dans le Z6. En quoi? Parce que ça, les gens n'ont pas compris. Nous, on n'a pas arrêté d'utiliser les GH5. On utilise les Z6 et les GH5. Et ça, on vous l'expliquera bien. Il y a des choses que le Z6 ne fait pas. Il y a des choses que le GH5 ne fait pas. La caméra qui fait tout, ça n'existe pas. La caméra qui remplacera toutes les caméras, ça n'existe pas. Ah, tiens, j'ai la musique qui commence, la batterie qui commence. Ça va être l'heure de terminer. J'espère qu'il y aura un truc pour le 110e. Alors, tu as le temps de t'y préparer. Arrêtez de me foutre la pression. J'ai déjà tellement de pression en ce moment. Vous me stressez, la chatroom, à me demander des trucs. Ah ouais, bah t'as qu'à faire ça. Et puis, tu nous fais des mugs en 3D qui bougent avec une animation et Aladdin qui arrive et qui exauce un vœu. Et puis, on pourrait avoir des invités. Ouais, c'est facile d'inviter des gens qui viennent à 7h du matin pour ton mug 100. T'as qu'à faire ça en 2 jours. Non, honnêtement, j'ai rien prévu. Il n'y aura rien. Je vais peut-être acheter une bouteille de champomy pour marquer le coup, mais c'est tout. Hein. Il est 9h05. Tu as raison de me prévenir, Samuel. On va devoir arrêter ce mug. Je vous retrouve demain matin à 8h pour donc le mug numéro 98. Hein. Donc, on se retrouve demain matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez sages, soyez les meilleurs. À demain.